Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 178, avec du pain sur la planche dans cette Europa Voice. Et toujours avec nous, comme à chaque épisode, c'est Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a beaucoup à parler, on a deux sujets importants pour cette Europa Voice numéro 178. Tout d'abord la Hongrie, les élections ont eu lieu ce week-end, il y a un nouveau leader. On va en parler dans quelques instants et puis en deuxième partie, nous parlerons de rapprochement potentiel, en tout cas qui a l'air d'émerger entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est très important quand on connaît l'histoire et l'historique des relations britanniques et européennes, incluant le Brexit bien entendu. Tout d'abord, Nathanaël, les élections, Peter Madjar est le nouveau leader en Hongrie. C'est important comme nouvelle quand on réfléchit et quand on revient en arrière à quel point Viktor Orban a influencé la droite de la droite de la droite européenne. Viktor Orban, il a perdu les élections malgré l'aide américaine, on va en reparler, mais un nouvel homme fort, c'est Peter Madjar, et lui, il est plutôt de tendance européenne.
Oui, tout à fait, Christophe. En fait, c'est une victoire sans appel pour une politique, j'allais dire, non menée par Viktor Orban en Hongrie. C'est aussi la fin d'une longue parenthèse, hein, vous me permettrez l'expression, parce que Viktor Orban a été au pouvoir en Hongrie pendant près de 16 ans. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre non seulement pour le pays, mais également dans la relation avec l'Union européenne.
Qu'est-ce que concrètement ça change? Déjà, à quel point cette victoire est large, pas large, elle est serrée, et on va parler également de l'impact justement de des Américains, hein, des alliés, on va toujours dire qu'ils sont alliés, mais des Américains, même si ça se tend beaucoup. On sait que J.D. Vance avait fait une visite avant, la semaine avant l'élection, pour accorder son soutien à Viktor Orban.
Alors en fait, Viktor Orban, il a été à la tête de la Hongrie pendant 5 mandats successifs, donc c'est une parenthèse qui est très longue. Et puis surtout, ce qu'il est important de mentionner, Christophe, c'est que cette longévité, elle s'est aussi accompagnée d'une sortie progressive des institutions étatiques au sein de la Hongrie, au service de son parti, le Fidesz. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé dans les précédents numéros d'Europa Voice et pour nos auditeurs d'SBS, c'est cette mise à l'écart progressive par rapport aux institutions étatiques et son parti, ça lui a valu d'être poursuivi un nombre incalculable de fois par la Commission européenne et notamment devant la Cour de justice de Luxembourg pour différentes raisons, pour notamment atteinte à l'état de droit, atteinte à l'indépendance de la justice. Donc en fait, ce qui se passe en Hongrie, c'est pas simplement une transition entre un leader d'extrême droite et un leader de droite, ancien allié d'ailleurs de Orban, c'est aussi une transition, encore une fois, vers une nouvelle relation avec l'Union européenne, mais vous l'avez mentionné aussi, avec les États-Unis, parce que officiellement, Trump, via l'intermédiaire de J.D. Vance, avait apporté son plein soutien à Viktor Orban dans cette campagne pour briguer un sixième mandat successif.
Oui, alors il voyait vraiment Viktor Orban comme un allié dans la politique trumpienne, en tout cas la vision du monde trumpienne, et un peu comme le cheval de Troie, si vous voulez, de cette politique au sein de l'Union européenne, parce qu'il faut le rappeler que la Hongrie est membre totalement de l'Union européenne. Un autre point dont on va évoquer en quelques secondes, c'est la relation avec l'Ukraine, parce que ça change aussi énormément la donne avec l'Ukraine, parce que la Hongrie avait un rôle aussi assez important par rapport à ça. Juste pour s'attarder 30 secondes sur les relations avec les États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que à travers le mouvement qu'il y a eu en Hongrie pendant des années, il y a des pays qui étaient aussi dans cette mouvance derrière la Hongrie. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a un peu coupé la tête à la droite de la droite européenne, ou est-ce qu'il faut pas vraiment voir si loin que ça?
Alors je dirais que c'est pas tellement une question, Christophe, de droite finalement ou de gauche ici. On a surtout, j'ai l'impression, coupé la tête au populisme et aux dérives illibérales de certains pays en Union européenne. Et c'est ça qui est important, parce que souvent on a vu d'ailleurs que à la fois des mouvements d'extrême gauche et des mouvements d'extrême droite pouvaient s'entendre sur certaines politiques. Leur point commun, c'est le populisme et ce sont les dérives illibérales. Et là, en fait, c'est vraiment le porte-étendard au sein de l'Union européenne de ce populisme, de ces dérives illibérales qui a été coupé. Donc c'est forcément à la fois une bonne nouvelle pour l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, mais c'est aussi, j'allais dire, une manière de voir encore un peu plus l'éloignement, finalement, entre l'Union européenne et les États-Unis, parce que Trump, le seul véritable allié objectif qui reste maintenant, il n'est pas dans l'Union européenne, c'est son voisin, c'est Vladimir Poutine.
Oui,
Alors qu'avant, il y avait
absolument.
quand même un pied au sein de l'Union européenne avec Viktor Orban. Et donc, quelle va être maintenant l'entité politique à même, finalement, de ramener aussi Trump autour de la table sur ces questions-là? Parce que Orban, même si, encore une fois, il n'était pas en odeur de sainteté avec l'Union européenne, il était aussi celui qui était capable à la fois de parler aux autres leaders européens, puisque vous l'avez dit, hein, la Hongrie fait partie des 28 moins 1, des 27, de parler avec l'Union européenne, de parler avec Poutine et de parler avec Trump. Donc il va falloir aussi, pour l'Union européenne, après avoir digéré cette bonne nouvelle de la défaite d'Orban, trouver une nouvelle manière de, j'allais dire, de parler avec les États-Unis.
Absolument. Quand je mentionnais l'Ukraine, en fait, le point très important, c'est que la Hongrie, donc via le gouvernement et sous le leadership de Viktor Orban, avait posé son veto à plusieurs décision et notamment un prêt de 90 milliards d'euros possible vers l'Ukraine pour un armement ou un surarmement ou un réarmement de l'Ukraine. Ce veto, il avait été donc mis en place parce que c'était comme ça que l'Union européenne fonctionne. Ça peut changer la donne du coup, puisque la Hongrie pourrait ne plus avoir ce veto. Donc si on ramenait cette proposition devant les parlementaires, c'est possible que ça passe à partir de ce moment-là. Donc ça pourrait changer vraiment la donne dans un conflit avec l'Ukraine. Et donc, du coup, avec la Russie.
Alors ça change la donne effectivement par rapport à l'Ukraine parce que certaines décisions, comme vous le savez, comme nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS le savent, doivent se prendre des fois à la majorité qualifiée, mais aussi à l'unanimité de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc c'est un veto de moins en fait si la Hongrie justement s'aligne sur les autres États européens par rapport à l'aide à l'Ukraine. Mais c'est même par rapport à la Russie parce que par exemple, tout ce qui est approvisionnement en gaz et en pétrole russe, l'Union européenne avait concédé par exemple à la Hongrie des dérogations pour poursuivre des importations énergétiques avec la Russie, ce qui est quand même assez incroyable dans la période qu'on connaît dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et donc là aussi, ça va changer parce que l'Union européenne n'aura plus besoin de faire la danse du ventre par rapport à certains États membres pour octroyer justement ces dérogations. Donc c'est un changement à la fois pour la Russie de Poutine, mais aussi pour l'Ukraine de Zelensky. D'ailleurs, Zelensky est certainement, à mon avis, le grand gagnant de ces élections en Hongrie. Hein. Ça ne veut pas dire que Zelensky il est aimé par les Hongrois, mais ça veut dire qu'il est un gagnant dans le sens où, comme vous l'avez mentionné, il va pouvoir recevoir des aides européennes promises et les dizaines de millions qui pour l'instant étaient bloquées du seul fait de la Hongrie.
Ouais, absolument. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France et plus particulièrement dans l'objectif ou dans l'optique de l'élection présidentielle qui arrive l'année prochaine? On sait que il y avait un rapprochement entre le Rassemblement national et le parti et les idées de Viktor Orban, en tout cas au moins au niveau des idées. Est-ce que ça c'est une épine dans le pied en moins peut-être pour les autres partis que le Rassemblement national? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que au niveau du public français et des gens qui votent en France, ça pourrait avoir une influence?
Alors déjà, si on prend un petit peu plus grand que la France, l'Union européenne, très très rapidement, alors que des fois, on le sait, hein, des fois, von der Leyen, elle peut un peu attendre avant de se positionner, là, très très rapidement, il y a eu des déclarations très positives de la Hongrie qui respire, de la Hongrie qui a choisi l'Europe, de l'Union qui s'en trouve renforcée, etc., de par l'exécutif européen. Donc ça, c'est déjà aussi une très forte indication, la proactivité de l'Union européenne, de sa présidente, la présidente de la Commission, à réagir à ces élections en Hongrie. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va y avoir maintenant finalement une relation, une diplomatie plus constructive, à la fois entre la Hongrie, encore une fois, et l'Union européenne, mais aussi avec l'Ukraine. Pour le Rassemblement national, j'allais dire, c'est très difficile de comprendre déjà et d'anticiper ce qui va se passer, parce que c'est aussi d'une certaine façon, bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus compliqué. Parce que c'est un exemple où, encore une fois, un parti populiste, un parti illibéral est défait à des élections démocratiques. Mais en même temps, c'est une épine du pied en moins pour le Rassemblement national, puisqu'on ne pourra plus lui faire en fait le reproche des accointances avec le parti d'Orban, puisque ce parti lui-même n'est plus au pouvoir. Donc ça va être aussi intéressant de voir quelle va être la position du Rassemblement national par rapport à ce nouvel interlocuteur hongrois. J'anticipe que le rapprochement ou en tout cas la relation va pas être une priorité pour l'Assemblée nationale, mais voilà, comme vous le voyez, c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, et c'est très difficile d'anticiper ce que ça veut dire pour l'instant pour le Rassemblement national en vue des élections présidentielles de 2027.
D'accord, alors on va finir quand même sur le vainqueur de cette élection. Qu'est-ce qu'on connaît de Peter Madjar? Vous avez dit, il est quand même à droite, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un virement à gauche en politique en Hongrie. C'est un élément de la droite. Il a travaillé avec Viktor Orban. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre de lui?
Bah, on sait qu'en termes de programme, déjà, Magyar, lui, ce qu'il veut, c'est que la Hongrie adhère au Parquet européen. Donc un organe indépendant chargé de poursuivre les infractions qui portent aux intérêts financiers de l'UE, comme la fraude ou le blanchiment d'argent. Donc déjà, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y avait une opacité et il y avait surtout une volonté de non-collaboration avec des instances de l'Union européenne sous Orban. Un autre élément qui est peut-être encore plus, j'allais dire, médiatique et encore plus compréhensible pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est que une autre priorité de Magyar, c'est le rétablissement de la liberté de la presse. C'est le rétablissement, finalement, de la conformité de la Hongrie avec l'état de droit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que, encore une fois, Orban, il avait été pointé du doigt par la Commission européenne, par l'Union européenne, par la Cour de justice pour ce manquement à l'état de droit, à la liberté de la presse, au respect des minorités, etc. Et donc, c'est un ancien compagnon de route de Viktor Orban, mais il s'en est démarqué. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins à droite, hein, il reste toujours à droite. Et puis, il y a un autre élément aussi pour moi qui est intéressant avec Maga, c'est que clairement, il veut se positionner sur le bilan économique. En fait, je ne crois pas que Viktor Orban ait été défait simplement par rapport à tout ce qu'on vient de dire hein, sur la question du respect de l'état de droit et même la relation à l'Ukraine. Il a aussi été défait par rapport à son mauvais bilan économique. Parce que le bilan économique de la Hongrie, notamment lors de ses dernières mandatures, il n'est pas bon. Et donc, Maga, il a aussi, j'allais dire, à cœur de prouver que la Hongrie peut être un acteur européen avec une croissance aussi solide, et notamment par similarité ou par porosité avec son voisin polonais.
Est-ce qu'on peut penser que la Hongrie pourrait rentrer dans l'euro assez rapidement? Est-ce que ça peut se faire assez rapidement? C'est un pays qui n'est pas au sein de la monnaie unique. Est-ce que c'est une possibilité?
Magyar, Christophe, pour le citer, s'est dit ouvert à l'idée que la Hongrie rejoigne la zone euro. Donc, les portes ne sont pas fermées, mais il va d'abord lancer une consultation auprès de la population pour fixer une date cible. Donc, la porte n'est pas fermée, ça ne veut pas dire que ça se fera, mais c'est aussi des signaux qui sont interprétés extrêmement positivement par les marchés déjà, mais aussi par la Commission européenne et par l'Union européenne. Donc, il n'est pas dit non plus qu'on n'assiste pas dans les prochaines années à avoir une Hongrie où vous pourrez, à Budapest, Christophe, utiliser et je pourrais utiliser nos euros.
Absolument. Allez, on fait une courte pause et dans la seconde partie d'Europa Voice, nous prenons la direction de la Grande-Bretagne avec notre bonne vieille Madeleine de Proust, le Brexit qui fait encore parler de lui tout de suite après ça.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.
Seconde partie d'Europa Voice cette semaine, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, maintenant on va parler de la Grande-Bretagne et des relations avec l'Union européenne. Le Brexit, hein, ça a été notre Madeleine de Proust pendant un bon moment. Ça fait un bon moment qu'on n'en a pas parlé également. Et bien dans l'ère post-Brexit, le Premier ministre britannique Keir Starmer, eh bien, il a fait une déclaration cette semaine. Il entend permettre au Royaume-Uni de s'aligner plus étroitement avec le marché commun européen. Il voudrait, en détail, vous allez nous en parler, limiter le rôle du Parlement sur certains changements à l'avenir. Ça fait énormément débat dans un pays qui est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements par rapport à l'immigration et surtout beaucoup de questionnements à l'après-Brexit.
C'est notre Madeleine de Proust, Christophe. Effectivement, le Brexit, ça l'a été. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque l'impression que le rapprochement avec l'Union européenne va aussi devenir une autre Madeleine de Proust. Parce que c'est en fait, pour l'instant, c'est pas encore très avoué, mais c'est beaucoup de signaux faibles de la part de Keir Starmer. De se rapprocher de l'Union européenne et là le dernier fait d'armes, vous l'avez mentionné, c'est cette semaine lundi 13 avril quand ce dernier a annoncé qu'il souhaite se rapprocher du marché commun européen et ce qui a fait bondir les pro-Brexit en disant se passer de certains débats au Parlement. Donc en plus vous rajoutez, j'allais dire, à la confusion Brexit et au remords du Brexit, vous ajoutez une espèce de petite sauce 49-3 à la britannique, et vous avez donc une situation un peu explosive là au Royaume-Uni où très franchement c'est très compliqué de comprendre et encore plus pourquoi les Britanniques sont sortis de l'Union européenne il y a quelques années de cela.
Oui, alors ça veut dire beaucoup parce que il y a tellement à expliquer et à élaborer et à discuter sur ce Brexit et sur tout ce qui s'est passé depuis. Mais on sait que donc bon, Keir Starmer il est à la tête du Parti travailliste. Ce Parti travailliste, même s'il y a eu des positions contre le Brexit, n'a jamais vraiment ouvertement voulu un retour en arrière, en tout cas pas publiquement. Là, il y a quand même un petit peu un rétropédalage sur le résultat du Brexit et c'est globalement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est assez courageux de la part de Keir Starmer dans une position où il est aujourd'hui actuellement très renié dans son pays. Il n'est pas au plus haut dans les sondages. Donc c'est une ligne politique peut-être, mais elle peut être dangereuse pour lui également.
Ah bah elle est très dangereuse, Christophe, mais il y a plusieurs éléments. D'abord, en fait, le temps passe, mais on arrive tout doucement aux 10 ans du vote sur le Brexit, du référendum.
Ça fait un bail.
Ouais, 10 ans. Donc, ça veut dire que ça va forcément aussi revenir dans le débat politique parce qu'on a eu le temps de tirer justement les leçons et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, de toute façon, la question du Brexit, c'est pas une question du passé pour les politiques britanniques. Ils vont devoir s'y confronter. Puis l'autre chose, c'est surtout de trouver des alliés en fait. C'est-à-dire que actuellement, le Premier ministre britannique n'hésite pas à critiquer frontalement Donald Trump d'un côté et aussi de l'autre côté n'hésite pas à multiplier les déclarations sur une nécessité de se rapprocher de l'Union européenne. Il avait notamment parlé, il y avait eu un appel à ce qu'on avait appelé, ce qu'on appelle une Europe de la défense, et Keir Starmer avait notamment déclaré que l'intérêt national du Royaume-Uni à long terme, c'est un partenariat plus étroit avec les alliés européens et l'Union européenne. Donc, il y a ce double effet qui se coule d'une certaine façon. Il y a de toute façon l'impérialité du Brexit à s'imposer dans le débat à cause des 10 ans de ce référendum. Et puis, il y a de toute façon cette nécessité de trouver des alliés parce que il y a cet éloignement vis-à-vis de l'allié historique que sont les États-Unis. Et donc, il va bien falloir que le Royaume-Uni s'allie à une autre puissance régionale si elle veut continuer d'exister et de peser sur la scène internationale.
Et ça renforce encore plus le fait que bon, l'Europe en général, on en a beaucoup parlé, mais les Britanniques également ont quand même pas mal perdu pied dans leur façon de pouvoir faire de la pression sur certains endroits dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Et on les voit totalement, quasiment absents du débat, des négociations, de ce qui se traite aujourd'hui dans l'un des plus grands problèmes de la planète à l'heure actuelle.
Allez, le Royaume-Uni, c'est presque, j'allais dire, plus quand Trump mentionne que les Israéliens mentionnent qu'ils veulent garder absolument la France éloignée de toute négociation, c'est presque moins insultant que, j'allais dire, la non-considération absolue qui est faite aux Anglais, c'est-à-dire que au moins les Français pour l'instant gênent d'une certaine façon, ils sont pas invités autour de la table, mais on leur a bien fait comprendre qu'ils sont pas les bienvenus. Et alors qu'il y a une espèce de, j'allais dire presque de mise à l'écart en fait, de non-considération du Royaume-Uni. Et ça, c'est voilà, ça il va falloir à la fois, encore une fois, il y a c'est le curseur, il est se rapprocher pour le Premier ministre britannique, se rapprocher de l'Europe, mais pas non plus totalement rompre avec les États-Unis. Et puis il y a aussi encore une fois les vérités, il y a encore une fois la réalité économique, c'est que le Brexit, Christophe, on en a beaucoup parlé ici dans notre podcast Europa Voice, le Brexit a causé de sérieux dommages à l'économie britannique et que de toute façon, il va bien falloir trouver des sources de croissance et puisqu'on est né à célébrer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, il faut le dire, maintenant le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, il faut qu'il négocie des accords de libre-échange avec chaque entité, chaque pays ou chaque puissance politique. Donc c'est aussi un exercice qui est beaucoup plus compliqué que si vous appartenez à un ensemble de 27 pays où il y a déjà une libre circulation des biens et des personnes, et que quand un accord est négocié, eh ben l'accord il s'applique à l'ensemble de ces 27 pays-là. Donc il y a à la fois la réalité politique entre les États-Unis et l'Union européenne, et puis il y a la réalité aussi économique qui fait que de toute façon, Keir Starmer doit montrer des signes de bonne entente et de bonne collaboration avec l'Union européenne. Mais j'anticipe, Christophe, que de toute façon, Nigel Farage va, lui, ne pas montrer autant d'enthousiasme que Keir Starmer en termes justement d'assouplissement des règles vis-à-vis de l'Union européenne.
Alors, c'était ma prochaine question pour terminer d'ailleurs sur ce sujet. C'est-à-dire que ça, c'est bien d'en parler. C'est beau, les paroles de Keir Starmer, mais on est à une élection près que tout ça vole en éclat si Nigel Farage arrive à ses fins et arrive à enfin Nigel Farage ou n'importe qui l'autre. Ça vaut le temps que Keir Starmer est à la tête du gouvernement britannique. On sait à quel point c'est volatile en Grande-Bretagne. On sait à quel point il peut être renversé par son propre parti. C'est un peu comme schématiquement la politique australienne. Ça peut ne pas durer. Ça ne durera sûrement pas en plus. Donc c'est compliqué comme situation.
Ah, c'est très compliqué. Et puis il y a des élections aussi locales le 7 mai, donc dans 3 semaines. Et les sondages sont pas bons du tout pour les travaillistes, pour la majorité des travaillistes. Donc de toute façon, c'est peut-être aussi d'une certaine façon des paroles en l'air, parce que si Keir Starmer perd la confiance de ses électeurs et n'est plus au pouvoir dans quelques mois de cela, de toute façon, on sait très bien que Nigel Farage, même si ce serait une bonne idée de se rapprocher de l'Union européenne, il ne peut pas, parce qu'il perdrait sa base électorale, il perdrait son produit d'appel, hein, qui est la rupture avec l'Union européenne, même si, d'une certaine façon, comme on sait qu'une majorité, Christophe, des Britanniques estime que le Brexit a été une erreur, même les partis plutôt favorables comme les conservateurs ou comme Réforme UK de Farage n'abordent pas la question. Mais il y a quand même un monde entre ne pas aborder la question et prendre un virage à 180 degrés. Donc, c'est effectivement compliqué, c'est un peu un pari fait par Keir Starmer qui, comme vous l'avez dit, peut-être ne sera pas gagnant pour lui et pour les travaillistes au Royaume-Uni.
Absolument, vous savez quoi ? C'est une affaire à suivre. Et ça, je suis certain, d'accord avec vous également, ça peut devenir notre nouvelle Madeleine de Proust si l'avenir nous donne raison. Merci Nathanaël d'avoir été avec nous cette semaine.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.